Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Xavier Sartre.
La passion du Christ, miroir de la souffrance des hommes. Le pape François, quelques jours de Pâques, est revenu sur le sens de la passion lors de l'audience générale place Saint-Pierre. Alors que les Juifs célèbrent cette semaine leur Pâques et que les chrétiens s'apprêtent à célébrer tous ensemble la résurrection du Christ, la Terre Sainte connaît de nouvelles tensions. Des heurts ont opposé musulmans et policiers israéliens sur l'esplanade des mosquées ce mercredi matin. Canonisation de Jean XXIII et de Jean-Paul II avec aujourd'hui des témoignages, celui de l'ancien porte-parole du pape polonais Joaquín Navarro-Valls et des jeunes qui parleront de la figure de Jean-Paul II. Bienvenue dans le magazine de Radio Vatican. Et commençons ce rendez-vous en adressant tous nos vœux à Benoît XVI, le pape émérite qui fête aujourd'hui son 87e anniversaire. Est-ce un cadeau ? En tout cas, mardi, le régime cubain a annoncé avoir décrété le vendredi saint comme jour férié. Il répond ainsi à une demande formulée par Benoît XVI lors de sa visite dans l'île en mars 2012. Le président cubain Raúl Castro avait accédé une première fois à cette requête en déclarant ce jour férié de manière exceptionnelle en 2012, puis en 2013. Le Parlement a donc depuis statué en modifiant le Code du travail qui entrera en vigueur le 1er juin prochain. Cette année, le vendredi saint sera donc férié une dernière fois de manière exceptionnelle. Retour maintenant au Vatican. En regardant Jésus dans sa passion, nous voyons comme dans un miroir les souffrances de toute l'humanité et nous trouvons la réponse divine au mystère du mal, de la douleur, de la mort. C'est la réflexion développée par le pape François ce mercredi matin lors de l'audience générale place Saint-Pierre devant quelques 25 000 personnes sur le thème du chemin de souffrance parcouru par le Christ jusqu'au Golgotha. Antonino Gallofaro.
La résurrection de Jésus, ce n'est pas le happy end d'un film, ni la belle conclusion d'une jolie fable. Très imagé, le pape François, pour sa dernière audience générale avant Pâques ce matin. Non, la résurrection de Jésus est l'intervention de Dieu, et c'est là que repose toute l'espérance humaine. Car le Christ a pris sur lui toute la souffrance humaine, a rappelé le souverain pontife. Et à François de donner un conseil pour la semaine sainte, regardez le crucifix, embrassez les plaies de Jésus. Jésus qui a atteint l'humiliation complète avec la mort sur la croix, poursuit le pape. La pire des morts, celle qui était réservée aux esclaves et aux bandits.
Jésus raggiunge la completa umiliazione con la morte di croce. Si tratta della morte peggiore, quella che era riservata agli schiavi e ai delinquenti.
Face aux fidèles, le pape s'inquiète. Nous sommes horrifiés par le mal et la douleur qui nous entourent. Pourquoi Dieu permet-il cela ? C'est une blessure profonde pour nous que de voir la souffrance et la mort, spécialement celle des innocents, des enfants. Le Saint-Père a donc médité sur le mystère du mal au cœur de la Semaine Sainte. Il l'a qualifié de déconcertant, déconcertant aussi la grande humilité de Dieu. Il a aimé le monde au point de lui avoir offert son Fils unique.
Antonino Gallofaro. L'Église comptera deux futurs saints. Mardi, le pape a en effet autorisé la Congrégation pour la cause des saints à publier quatre décrets reconnaissant entre autres deux miracles, ceux obtenus grâce à l'intercession du bienheureux Ludovico da Casoria, mort en 1885, et du bienheureux Amato Ronconi, mort en 1292. Les vertus héroïques du servant de Dieu français Alain Guinaud de Boismenu ont été reconnues. Né à Saint-Malo en 1870 et mort à Kubuna, dans les îles Fidji, en 1953, il fut membre de la Congrégation du Sacré-Cœur de Jésus et vicaire apostolique de Papouasie, où il accomplit son œuvre de missionnaire. Autre servant de Dieu dont les vertus héroïques ont été reconnues, Guillaume Janoschek, mort en 1926. L'exemple d'Alain Guinaud de Boismenu, missionnaire en Papouasie, fera-t-il des émules au Brésil ? En tout cas, la Conférence nationale brésilienne des religieux religieux réclament plus de missionnaires pour l'Amazonie. Réunis ces derniers jours à Brasilia, la capitale, ces religieux ont souligné la nécessité de renforcer la présence de religieux et de laïcs généreux et disponibles pour consacrer leur vie au service des communautés vivant en Amazonie. Vu les conditions de vie et l'environnement, il faut que les missionnaires soient en mesure de s'ouvrir à l'inculturation pour comprendre la langue des peuples natifs, notamment. Parmi les difficultés qu'ils doivent affronter, il y a donc les conditions climatiques, c'est naturel, mais aussi des problèmes bien humains, comme la traite des êtres humains. Nouveaux incidents, je vous le disais, dans les titres sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem ce mercredi, et ce, à quelques jours des festivités de Pâques pour les chrétiens et en pleine Pâque juive. Ce matin, en pleine Pâque juive, dans la matinée donc de mercredi, la police israélienne a tiré des grenades assourdissantes et des balles en caoutchouc contre des Palestiniens qui leur lançaient des pierres et des pétards. À l'origine de ces heurts, l'entrée sur l'esplanade de juifs voulant y prier, ce qui a provoqué la colère des musulmans présents sur place. Hélène Destombes a contacté Charles Anderlin, c'est le correspondant permanent de France Télévisions en Israël. Il revient sur le contexte général dans lequel sont intervenus ces heures.
À l'occasion de la Pâque juive, de très nombreux Palestiniens musulmans craignaient un renforcement des initiatives de la droite nationaliste religieuse israélienne. Depuis quelques années, comme vous le savez, entre le dimanche et le jeudi, durant toutes les matinées, la police israélienne laisse des juifs religieux, souvent accompagnés de leurs rabbins, visiter l'esplanade des mosquées, qui est aussi le principal lieu saint du judaïsme. Là se dressaient les temples de Salomon et d'Hérode. En l'occurrence, effectivement, pendant cette période de fêtes religieuses, de très nombreux jeunes Palestiniens s'étaient massés et ont affronté la police israélienne. Il y a certainement également d'autres raisons. La crise dans les négociations israélo-palestiniennes, et puis une crise également économique qui se durcit actuellement chez les Palestiniens. Donc ce genre d'incident se répète, les affrontements sont de plus en plus importants et de plus en plus violents, et cela risque effectivement de tourner vinaigre.
Des affrontements de plus en plus importants, vous venez de le dire. En mars dernier, l'Union européenne s'était dit très inquiète dans un rapport d'un risque significatif de troubles au Moyen-Orient en raison de ces tensions croissantes autour de l'esplanade des mosquées. Il y a une réelle inquiétude aujourd'hui.
Oui, mais je crois qu'elle n'est pas réellement fondée. Il n'y a a priori aucune raison qui pourrait amener le gouvernement israélien à changer le statut de l'esplanade des mosquées, le troisième lieu saint de l'islam, c'est-à-dire répondre aux exigences, aux demandes des mouvements messianiques religieux, des mouvements sionistes religieux, pour par exemple autoriser officiellement la prière juive sur l'esplanade. Donc à l'heure actuelle, rien n'indique que le gouvernement Netanyahou finisse par céder à ce genre de demande.
Inquiétude certes, mais vous ne croyez pas à un embrasement malgré tout?
Personne vraiment n'y a intérêt. Le public palestinien, la population a gardé un très mauvais souvenir de la répression de la seconde intifada. Quand même, près de 5000 morts, des milliers de blessés, une crise économique qui perdure encore aujourd'hui. S'il y a des jeunes qui, effectivement, des jeunes palestiniens qui voudraient en découdre, l'immense majorité de la population palestinienne, elle, pas du tout. Maintenant, aucun changement prévisible du statu quo sur l'esplanade des mosquées. Voilà, je ne vois pas pourquoi il y aurait actuellement une détérioration encore plus rapide que ce à quoi l'on assiste actuellement. Cela dit, vous savez, il n'y a plus de prophète au Proche-Orient depuis quelques millénaires et tout peut arriver du jour au lendemain.
Charles Anderlin, le correspondant permanent de France Télévisions, il était joint par Hélène Destombes. Au Sénégal, la jeunesse étudiante catholique veut sensibiliser les communautés dans les zones de conflit du pays pour éviter que les tensions ne dégénèrent et ne mettent en péril l'avenir des enfants. La Casamance et le Kédougou, dans l'Est, sont les deux zones concernées. Les étudiants catholiques sénégalais veulent ainsi contribuer à la dynamique de pacification et de stabilisation par la formation et la sensibilisation. Selon le président de la JAC, Grégoire Sarr, l'enjeu est le développement intégral et durable des communautés. Passons maintenant à la seconde partie de ce magazine consacré aux canonisations de Jean XXIII et de Jean-Paul II le 27 avril, dimanche de la Miséricorde. Nous vous proposons aujourd'hui le témoignage d'un homme qui fut aux côtés de Jean-Paul II pendant plus de 20 ans, Joaquín Navarro Valls. À l'ancien directeur de la salle de presse du Saint-Siège, notre collègue italien Alessandro Gisotti a demandé de nous confier ses impressions sur la figure et le témoignage du futur saint et de nous dire aussi en quoi consiste l'héritage que Jean-Paul II a laissé au monde de la communication.
Certainement, et ce fut assez rapidement en réalité. Dès les premiers temps, quand j'étais près de lui, que je travaillais à ses côtés, et dès les premières fois que je l'ai vu simplement prier, dans ces moments, j'ai eu vite la certitude que cet homme était un saint. Il avait une intimité avec Dieu qui était si évidente que cela correspondait à cette caractéristique de la sainteté selon les critères de l'Église catholique.
Durant ces 9 années depuis la mort du pape, quelles choses vous ont frappé dans l'attitude des personnes si nombreuses que vous avez rencontrées à l'égard de Carole Wojtyła?
Je dirais la ténacité dans le fait de se rappeler de Carole Wojtyła comme une personne vivante. C'est curieux. Après tant d'années, les gens parlent non seulement du pape en mentionnant des souvenirs spécifiques, des images, des moments, mais beaucoup plus souvent ils disent « Vous voyez, moi, je lui ai demandé telle ou telle chose dans ma vie », c'est-à-dire donc qu'ils actualisent leurs souvenirs avec des événements personnels qui se rapportent à Jean-Paul II. Les gens m'arrêtent encore dans la rue en me disant « Permettez-moi de vous dire ceci ou cela », et donc ils continuent à être bien présents, très actifs dans la vie des personnes.
Jean-Paul II était un communicateur né. Est-ce que, selon vous, là encore dans ce charisme, on peut trouver des éléments de sainteté?
Oui, l'expression « le grand communicateur » pour parler de Jean-Paul II a toute sa pertinence. C'est vrai, mais nous devons éviter l'écueil de penser qu'il était un grand communicateur seulement parce qu'il communiquait bien au niveau formel. Quand les gens disaient « il a raison », il ne le disait pas pour approuver une belle voix ou son expressivité magnifique. On donne raison à une personne qui dit le vrai. Et en lui, il me semble que le beau, le bon et le vrai apparaissaient dans sa communication comme des choses unies entre elles, que l'on comprenait la qualité de la communication par le contenu de ce qu'il était en train de communiquer. Autrement dit, il communiquait Dieu, il rendait aimable la vertu, il faisait des propositions qui pouvaient remplir l'existence. Je pense que c'est là que résidait la vertu de sa communication et non pas seulement dans l'aspect purement formel.
La virtù della sua comunicabilità, io penso, e non tanto un aspetto puramente formale.
Nell'ambito delle comunicazioni. Dans le cadre des communications sociales, quel héritage à long terme a-t-il laissé pour l'Église dans son témoignage?
Testimonianza santa di Giovanni Paolo II.
Guardi, io penso che sempre, non soltanto nella Chiesa, ma nella vita sociale anche, sempre.
Je pense que toujours, non seulement dans l'Église, mais aussi dans la vie sociale, nous avons trouvé des personnes qui semblaient avoir une clarté extraordinaire pour dire ce qu'il ne faut pas faire ou ne pas être, mais qui par contre ne semblaient pas avoir cette même facilité à définir et à communiquer ce qu'il nous faut être ou vers quoi cheminer si l'on veut devenir meilleur. Naturellement, cette éthique laisse dans l'esprit une ambiguïté et ce n'est pas très enthousiasmant. Jean-Paul II était complètement différent. Je pense que cela est resté comme une manière d'évangéliser, de communiquer la vérité chrétienne. Cette affirmation de la vérité chrétienne doit être propositive. Par exemple, Jean-Paul II parlait plus de la beauté de l'amour humain que des risques d'une sexualité capricieuse. Il ne parlait presque jamais de l'égoïsme, mais plutôt comment un monde fait de générosité serait si merveilleux. Cette manière de communiquer en proposant la vérité chrétienne est enthousiasmante, là. Elle attire, et je pense que c'est en cela que sa manière de communiquer reste un exemple. Voilà ce que nous a enseigné Jean-Paul II.
Di comunicare la verità cristiana entusiasma, attira, e io penso che questo rimane dopo l'insegnamento e l'esempio di Giovanni Paolo II.
Joaquín Navarro Valls, l'ancien porte-parole de Jean-Paul II, il était au micro de notre confrère italien Alessandro Gisotti. Nous vous parlions mardi de la relation privilégiée nouée par le pape Jean-Paul II avec les jeunes et la confiance qu'il avait placée en eux. Pour cette génération et celles qui ont suivi, Jean-Paul II restera avant tout celui qui a fondé les Journées mondiales de la jeunesse et celui qui les a guidés pendant la période difficile de l'adolescence. Aujourd'hui, après le pontificat de Benoît XVI et celui commencé il y a un an par le pape François, quand ils évoquent Jean-Paul II, ils se souviennent de son charisme et de la force de ses paroles. Des qualités qu'ils retrouvent aussi chez le pape François, mais dans un style différent. Audrey Radondi a rencontré au centre San Lorenzo, à quelques mètres de la place Saint-Pierre, Cynthia, une Libanaise de 27 ans, Franck, 33 ans, originaire de Monaco, et Arnaud, 32 ans, originaire, lui, du Gabon. Elle leur a demandé quelles sont pour eux les similitudes et les différences entre Jean-Paul II et le pape François.
Pour parler des similitudes, il y a beaucoup. Ça l'engage avec les jeunes, ça a continué avec Benoît XVI et même avec Pape François. Pape François, ce qui est remarquable dans ses mots, dans ses messages, c'est la pauvreté. Il regarde plus les pauvres. Ils vont les deux être des saints, car aussi Pape François, dans sa vie, maintenant, comme on le connaît, comme on le voit, dans toutes les célébrations, dans toutes les rencontres avec les jeunes, les petits, les grands, il fait un changement dans les cœurs, dans la vie, comme il a fait le pape Jean-Paul II. Pape François, il continue le chemin qui était commencé avec Jean-Paul II. Il continue à changer l'Église, à changer le cœur, à marcher avec les jeunes dans leur chemin, à leur guider vers la sainteté. Alors je vois beaucoup de similitudes plus que de différences. Moi, je crois qu'il va aussi, le pape François, être un très grand saint comme pape Jean-Paul II et il va laisser ses marques dans les cœurs, dans le monde et dans l'Église catholique.
Je crois que le pape Jean-Paul II, alors c'est peut-être son passé de philosophe, mais je crois qu'il était redoutable pour nous interpeller et pour nous faire réfléchir. C'est un pape qui ne nous laissait pas forcément avec plein de réponses, mais qui nous laissait avec plein de questions, et tant mieux. Le pape François, il laisse énormément d'émotions. Je pense qu'il y a des similitudes, il y a aussi des différences. Les deux maîtrisent bien la communication, on le voit avec cette espèce de regain d'enthousiasme qu'il y a de la part des médias, il y a une espèce d'unanimité, peut-être même encore plus pour le pape François que pour le pape Jean-Paul II. Les deux savent toucher au cœur. La nuance, ce sera que le pape Jean-Paul II peut nous vous laisser avec une question qui va durer la semaine. Le pape François sera peut-être moins tortueux. Il va nous interpeller et nous parler peut-être un peu plus au cœur.
C'est une continuité. Mais le pape Jean-Paul II, c'est vrai, il est venu à une période, un temps où les choses étaient plus chaudes. Il y a d'abord eu une position, pas politique, mais plus ou moins charismatique de sa part. Il avait le devoir de faire face d'abord au monde politique qui influençait beaucoup le monde. Il y avait ce mur à casser. Mais il a su trouver l'attitude, le comportement, les mots qu'il fallait à la place qu'il faut. C'était un homme très humble. Alors si je veux faire établir aujourd'hui un tableau de similitudes, voilà deux grands hommes. Ils sont tous des hommes sûrs de leur foi, de ce qu'ils sont. Et autre chose de similitude très important, c'est l'expression simple qu'ils ont. Jean-Paul II était très simple. Très simple dans ses paroles. Tout le monde comprenait ce qu'il disait à travers ses gestes. Et le pape François, dès le début de son pontificat, il a demandé au peuple de Dieu de prier pour lui. Donc, il a su tout de suite conquérir le cœur des gens qui ont soif de la parole. Comme bien sûr le pape Jean-Paul II, qui aussi a su en son temps séduire le monde à travers sa capacité de changer, sa capacité de transmettre ce qu'il a, les valeurs qu'il a, à tous les peuples d'ailleurs. Donc, c'est pour dire que la fonction ne doit pas changer l'homme. L'homme doit rester l'homme avec les valeurs qui incarnent le service. Donc Jean-Paul II, Benoît XVI et François, je vous assure, ce n'est qu'une continuité d'amour, une continuité de joie, de grande joie dans l'Église.
Voilà des propos recueillis par Audrey Radondi. C'est ainsi que s'achève ce magazine. Merci de votre fidélité. N'oubliez pas de retrouver toutes nos interviews et toutes nos informations sur notre site internet www.radiovaticana.va ainsi que sur notre page Facebook Radio Vatican en français. On se donne rendez-vous demain, même lieu, même heure.